Frère Constant, Frère Blanchard, Évangéliste Chancet. Amen. Plus vraiment notre pasteur. Amen.
Amen.
Je me considère comme un père. Amen.
Amen.
Pour cela, on va applaudir très très fort. Et puis je vais inviter le pasteur derrière. Michel Blanchard.
Même si il y a deux personnes, on sait que ces personnes-là, elles ont un rendez-vous avec le Seigneur.
Amen.
Certainement, peut-être que Dieu m'a envoyé que pour une seule personne.
Alléluia.
Et donc, nous avons la responsabilité d'obéir au Seigneur. Alléluia.
Amen.
Et de donner le meilleur de nous-mêmes. Alléluia.
Amen.
C'est ça qui est le plus important. Vous pouvez vous asseoir. Et si on veut rester, nous allons, à travers un cantique, élever le Seigneur. Qui dit fait quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose.
Alléluia.
Nous sommes là pour que quelque chose de nouveau se passe, se produise dans nos vies. Nous avons besoin que Dieu nous fasse entrer dans des choses nouvelles. Parce que notre Dieu est un Dieu de nouvelles choses. Et nous le croyons de tout notre cœur. Alléluia.
Fais quelque chose dans ma vie.
Oh. de toi, Seigneur. Seigneur, de qui es-tu le débiteur dans les Écritures? Le monde entier, l'univers est en train de mettre, tu es le propriétaire de toutes choses. Nous n'avons rien à répondre sinon que compter sur ta grâce, Seigneur. Seigneur, ce soir, souviens-toi de chacun, Seigneur. Seigneur, honore la foi de tes enfants, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta visitation. Nous sommes conscients de ta présence, mais nous avons besoin de ta manifestation. Oh Dieu, tu vas. Toi qui le chante, le marbre, il y a le monde de variation. Toi qui es présent parmi nous ce soir. Nous avons besoin de toi. Pardonne-nous, Seigneur Dieu. Parle à quelqu'un ce soir. Parle à un homme, parle à une femme. Qui s'attend et qui soupire après toi. Seigneur, je ne suis un serviteur inutile. Je suis ton esclave.
Et donc, je disais hier
que l'alliance, c'est l'élément incontournable dans le changement de destinée. Parce que toutes nos vies sont bâties sur des alliances. Toutes nos vies sont bâties sur des alliances. Le monde est régi par des alliances. Et les alliances influencent nos destinées. C'est pourquoi Dieu est un Dieu d'alliance et travaille avec les alliances. Le phénomène alliance n'est pas un phénomène nouveau qu'on vient vous parler aujourd'hui. Dieu a toujours été un Dieu d'alliance. Et Christ arrive, il vient également manifester une alliance nouvelle. Donc nous sommes dans une nouvelle alliance. Et pourquoi nous devons comprendre ce que nous disons à travers le sujet de l'alliance et les destinées. Et Jacob, à la fin de sa vie, est devenu comme un prophète. Il reçoit une certaine notion prophétique. Et Dieu utilise Jacob pour introduire les fils de Joseph dans leur destinée à travers une alliance. Et l'alliance que Jacob va faire avec les fils de Joseph, nous retrouvons cela à travers les paroles. Jacob dit à Joseph que les fils qui te sont nés, les premiers fils, sont à moi. Un, il dit d'abord ils sont à moi. Deux, il dit qu'ils porteront mon nom. Comment nous portons le nom de quelqu'un si ce n'est qu'à travers une alliance? Comment peut-on porter le nom de quelqu'un si ce n'est qu'à travers l'alliance? C'est une alliance. Alléluia. Et donc déjà, Jacob fait rentrer Éphraïm et Manassé dans son alliance. Ils vont porter mon nom, comme la femme qui porte le nom de son mari. Comme un enfant de la rue qu'on va adopter et qui devient un fils légitime. Alléluia. Nous parlons de l'alliance. Et je disais hier que l'alliance de Jacob a fait rentrer ces enfants-là dans un changement de statut et de position. Ils sont rentrés petits-fils, mais ils sont sortis fils. Nous parlons de changement de position, changement de statut, mais à travers l'alliance. Changement de destinée à travers l'alliance. Et non seulement il y a le changement de statut, les petits-fils qui deviennent fils, c'est ce qui se passe aujourd'hui lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Nous étions tous des créatures de Dieu, mais en acceptant Christ, nous devenons fils de Dieu. Tout le monde n'est pas fils de Dieu. Mais ceux qui sont fils de Dieu, c'est ceux qui rentrent dans cette nouvelle alliance. Donc, de créature de Dieu, nous devenons fils de Dieu, un changement de statut. Nos vies étaient régies par les alliances de nos familles. Nous subissions les influences de ces alliances, mais en Christ, nous entrons dans une nouvelle famille avec une nouvelle destinée. La famille des enfants de Dieu. Si chaque famille trace une destinée, mais nous sommes rentrés dans une nouvelle famille où également il y a une nouvelle destinée. Donc, en Christ, nous allons quelque part avec Dieu. Alléluia. Et donc, Éphraïm et Manassé, en bénéficiant de l'alliance de Jacob, leur statut a changé. Le statut a changé. Mais non, j'aimerais continuer en disant que on ne peut pas parler d'alliance sans parler de paroles qui accompagnent l'alliance. Voilà que le père Jacob, non seulement il pose un acte prophétique, mais également il accompagne cet acte par des paroles. Même dans le mariage, qui est une alliance, il faut que nous puissions parler. L'alliance doit être scellée par des paroles. Les paroles peuvent être écrites comme elles peuvent être orales, mais l'alliance doit être scellée par des paroles. Et le père Jacob va déclarer des paroles, non seulement il adopte, non seulement il fait changer le statut des fils de Joseph, mais également il déclare des paroles sur leur destinée. Nos familles sont bâties sur des alliances où des ancêtres ont fait des sacrifices, mais également qui ont déclaré des paroles sur la descendance.
Et ce sont ces paroles-là qui ont accompagné ce sacrifice, cette alliance, qui ont des effets et des influences dans nos familles africaines. Parce qu'il y a eu des paroles qui ont été déclarées. Donc dans l'alliance, il y a les paroles qui accompagnent l'alliance. Et les paroles peuvent être des bonnes paroles comme des mauvaises paroles. Et moi, je vais parler des paroles, des bonnes paroles, parce que chacun a libéré des bonnes paroles sur Éphraïm et Manassé. C'est pourquoi lorsque nous acceptons Jésus, lorsque nous venons dans le Seigneur, nous entrons dans cette nouvelle alliance, mais c'est également des paroles nous accompagnent. Des promesses nous accompagnent. C'est pourquoi la nation, lorsque le peuple est sorti d'Égypte, le Seigneur a fait alliance avec Israël et il a accompagné cette alliance par les paroles. Et notamment, il dit que ce peuple qui est en alliance avec moi, il dit que vous serez la tête et non moins la queue. Ce sont les paroles qui ont accompagné l'alliance. Vous serez la tête et non la queue. Vous m'appartiendrez. Comme il dit que toute arme forgée contre vous sera sans effet, ce sont les paroles qui accompagnent notre alliance. Quand le Seigneur parle à Jésus, il dit que tant que tu vivras, ne le tiendras pas. Ce sont les paroles qui accompagnent l'alliance. Donc, nous devons savoir qu'en dehors de l'alliance dans laquelle nous sommes entrés, il y a les paroles de Dieu qui t'accompagnent. C'est pourquoi nous encourageons le peuple de Dieu à lire la Bible. Parce que si vous ne lisez pas la parole de Dieu, comment vous saurez les paroles qui accompagnent votre alliance? Comment vous allez savoir? On vous dit que oui, vous êtes sauvés en Jésus-Christ, alléluia. C'est la nouvelle alliance, on est content. Mais quelles sont les paroles qui accompagnent cette alliance? Quelles sont les paroles? Lorsque tu te maries, vous avez fait les formalités, mais il faut dire des choses. Quelquefois, nous, on oublie les hommes. Alors, on ne devrait pas oublier les paroles qui ont été dites. J'aimerais que ma fleur, que je sais pas, ma carotte sucrée, quelles que soient les difficultés, vous serez toujours là. Mais après 2 ans, 3 ans de mariage, on oublie les paroles. C'est que la carotte sucrée, ça devient maintenant les poumons. Et ça devient un problème. Mais il y a des paroles qui ont été accompagnées quand même dans le mariage. Vous avez dit des choses, non? Maintenant, à combien de fortes raisons le Seigneur qui a voulu dans sa préscience faire de nous l'épouse, l'église l'épouse. Alors si nous sommes dans une alliance où dans cette alliance nous avons un double statut, nous avons le statut de fils de Dieu, mais également le statut d'épouse du Christ. En tant que fils de Dieu, nous avons besoin de manifester à l'égard de Dieu notre Père l'obéissance. En tant qu'épouse, nous avons besoin de manifester la soumission. Et tout ça à cause de l'alliance. Donc, l'alliance change de statut, l'alliance change de position, l'alliance nous introduit dans un nouveau régime de vie. Parce que tu étais célibataire, maintenant tu es ordonné. En tant que célibataire, si tu es rentré à n'importe quelle heure, tu mangeais dans n'importe quelle maison, maintenant que tu es marié, tu es discipliné. Tu ne rentres plus à l'heure que tu veux et tu ne manges plus n'importe où. À cause de l'alliance. L'alliance change le régime de vie. Et nous, en tant que point de vue, on va comprendre ces vérités. L'alliance change la destinée. Et c'est de ça dont nous allons parler ce soir. Mais non, comment, justement, nous allons, puisque l'alliance nous fait rentrer dans un nouveau régime, l'alliance nous distingue. Mais non, comment, et c'est ça qu'on va voir ce soir, comment allons-nous vivre cette distinction? Comment allons-nous vivre cette justification? Et ce soir, nous allons parler du principe du rejet. Et allons dans le livre du prophète Ésaïe. C'est le principe du rejeton qui va tout nous expliquer ce soir. Esaïe, le prophète, qu'est-ce que le principe du rejeton? Mais déjà avant, Esaïe 55, le verset 8, je l'ai cité en passant, mais j'aimerais qu'on puisse le dire. Esaïe 55, le verset 8, Dieu dit ceci de façon solennelle. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. C'est fort ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Et il ne dit pas que mes voix ne sont pas vos voix. Il dit vos voix ne sont pas mes voix. Donc vous voyez que c'est déjà tout un chamboulement. Et nous allons voir tout à l'heure que le principe du rejeton, c'est un principe qui ne respecte pas l'ordre naturel des choses. Parce que c'est un principe qui est divin. Dieu dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Mais alors comment? Esaïe 53. La parole de Dieu déclare ceci au verset 1er. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une belle plante, comme un rejetant qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni pour la paix. De Dieu est humilié. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le principe du rejeton, c'est le principe qui nous explique comment Dieu manifeste la nouvelle vie que nous avons dans l'Alliance à travers nos vies. Comment Dieu manifeste sa vie que nous avons reçue à travers l'Alliance, mais à travers nos vies. Et en lisant déjà le passage d'Esaïe, on nous parle justement du rejeton. Et ici, on nous parle de la personne de Jésus. Ici, j'aimerais dire que les principes de Dieu ne sont pas comme les principes des hommes. C'est pourquoi il a dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Parce qu'en temps normal, pour qu'une bonne plante sorte, elle ne peut pas sortir d'une terre desséchée. La terre desséchée, normalement, est une terre qui, normalement, ne peut pas rendre possible la germination. Pour qu'il y ait germination, pour que le rejeton sorte selon les voies normales, il faut que la terre soit arrosée. Il faut que la terre soit entretenue. Maintenant, lui, il nous dit que le principe du rejeton, c'est le principe où les rejetons de Dieu sortent dans les terres desséchées. C'est-à-dire qu'il faut que la terre soit desséchée pour que Dieu manifeste le rejeton. Tant que la terre n'est pas desséchée, tant que l'environnement n'est pas un environnement qui n'est pas normal, qui est anormal, Dieu ne se manifeste pas. Dieu utilise les terres desséchées pour se révéler.
Amen.
Au commencement, la terre était informe et vide, mais cela n'a pas empêché Dieu de déclarer les paroles sur cette terre qui était informe et vide.
Amen.
Dieu s'intéresse aux terres desséchées. C'est-à-dire tout ce qui n'a pas d'importance, tout ce qui est rejeté, tout ce qui est méprisé, tout ce qui est Dieu s'intéresse. Le principe du projecteur, ce qui est sans importance, mais c'est ce qui fait le choix de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit qu'on va parler des Éphraïm maintenant, parce que il y a un mot hébreu que j'aime bien qui parle du mot petit. Éphraïm était le plus petit. Et le plus petit en hébreu, c'est le mot katon. Et katon, j'aime bien ce mot katon en hébreu, parce que katon veut dire celui qui est le moindre, sans importance, le dernier. Ce qui est inutile. C'est le mot katon en hébreu. Et donc, Éphraïm était le katon par rapport à Manassé. Mais ce que Éphraïm et Manassé ne savaient pas, c'est que dans l'alliance, l'alliance les a introduits dans le royaume de Dieu. Ils ont été introduits dans la famille de Jacob en tant que fils. Or, dans le royaume de Dieu, il y a un régime de vie qui n'a rien à voir avec le royaume de ce monde. C'est-à-dire que les principes de Dieu n'ont rien à voir avec nos principes. En étant introduit dans le royaume, c'est dans l'environnement de Dieu, ils devaient savoir qu'ils vont rentrer dans un environnement où la logique n'est pas considérée. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de logique. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de choses normales. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de choses prévisibles. Parce que Dieu est un Dieu mystérieux. Il ne fera pas toujours les mêmes choses au moment que vous pensez. C'est pas parce qu'il y a la guérison à travers le fil qu'il le fera toujours. C'est pas parce qu'il a délivré à travers 7 jours de jeûne qu'il le fera toujours. Dieu est mystérieux. Amen. Parce que si tu pouvais prévoir comment Dieu agit, c'est qu'il n'est plus Dieu.
Amen.
Dieu est mystérieux.
Amen.
Donc dans le royaume de Dieu, on rentre dans un système qui dépasse notre entendement et notre raison. Et Éphraïm et Manassé sont rentrés dans une affaire qu'ils ne comprenaient pas. C'est là que le nom d'Éphraïm va avoir tout son sens. Doublement fréquent. Il était le plus petit. Mais la Bible dit que dans le royaume de Dieu, ce qui est grand, c'est ceux qui sont petits. Ce sont ceux qui sont petits dans le royaume qui sont les plus grands. Et en étant greffé dans ce royaume, Éphraïm le plus petit se retrouve à la première place. Le katon, le moindre, le sans importance, se retrouve à la première place.
Amen.
Dieu s'intéresse aux terres desséchées. C'est à travers les terres desséchées que le potentiel de Dieu. Dieu a enfoui son potentiel à travers les terres desséchées. Dieu a enfoui son potentiel à travers ce qui est méprisable. Dieu a enfoui son potentiel à travers ce qui est rejeté. C'est là que Dieu a caché les plus grands mystères. Dieu a enfoui son potentiel dans ce qui n'est pas certain, dans ce qui n'est pas prévisible. Là où tout le monde dit que c'est outsider, il n'y a plus d'espoir. Dieu dit qu'il y a tout mon espoir là-dedans. Parce que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Les catones, ceux qui sont moins rejetés, ce sont ceux-là qui bénéficient du regard de Dieu. Ce sont ceux-là que Dieu distingue. La condition d'Éphraïm n'était pas un frein à Dieu. Bien au contraire, sa condition favorisait la faveur de Dieu sur sa vie.
Amen.
parce qu'il était le plus petit. Dans toute l'histoire de la Bible, vous allez voir comment Dieu s'intéresse aux terres desséchées. C'est-à-dire des personnes qui sont dans un environnement de vie où il n'y a plus d'espoir. Abraham et Sarah étaient stériles. Ils avaient atteint un âge avancé où il n'y avait plus d'espoir. Mais c'est à travers eux que le Seigneur a voulu se glorifier. Regardez comment le Seigneur il travaille. Un monsieur comme Gédéon qui est le plus petit de la plus petite famille en Israël, c'est lui que Dieu va porter ce regard pour apporter la délivrance. Regardez David, le plus petit, Dieu le choisit pour être le roi d'Israël. Regardez une étrangère, Ruth la Moabite. Dieu va choisir une étrangère pour en faire dès l'ancêtre du roi David, la descendante du Christ.
Amen.
Dieu utilise les terres desséchées pour révéler ce que je t'en. Les rejetons de Dieu sortent des terres desséchées. La vie de Dieu sort des terres desséchées. Pas d'autre chose. Il est venu au village attaché. Mais il ne savait pas que dans son état de mépris, de rejet, il était le choix de Dieu. Il y a un âne dans la Bible. Un âne dans la Bible. Qui était dans un village qui n'a même pas de nom. Mais qui était attaché. Mais qui ne savait pas que dans son état. Regardez un âne c'est un animal qui est répugnant, qui est sale. Ça sent pas bon, c'est têtu, c'est désobéissant, c'est rebelle. Mais regardez un tel animal qui a tout pour ne pas intéresser un roi. Et le roi des rois dit que c'est sur un âne que moi le roi je vais rentrer à Jérusalem. Il n'y avait pas les chevaux à Jérusalem. Normalement les rois ils montent sur les chevaux. Mais lui dit que je vais prendre ce qui est. Je vais prendre ce qui est carton. Je vais prendre ce qui est moelle et je vais en faire mon carrosse royal. Dieu donne la valeur à ce qui n'a pas de valeur pour le nom. Parce que là où les gens disent que c'est terminé, il n'y a plus d'espoir, tu es fini. Tu dis non, j'ai investi mon meilleur dans la vie de cet homme. Ce que les hommes ne voient pas, Dieu ils le voient. Hein? Parce qu'ils voient la fin avant le commencement. Les hommes ils voient ton présent. Ils ne jugent pas en ton présent, mais ils ne savent pas ton futur. Ils ne savent pas ton lendemain. Ils ne connaissent pas ta destinée avec Dieu. Alors que personne ne juge à cause de ton présent. Cet âne était attaché. Il était répugnant. Il était là dans le village. Même pas en ville, mais au village. Et le Seigneur dit que c'est toi. De toutes les semences, la Bible dit que le grain de semence est la plus petite. C'est-à-dire que déjà par sa condition, par sa constitution, le grain de semence était déjà disqualifié. Parce que c'était la plus petite, on utilise un superlatif, la plus petite des semences. On n'a même pas dit que c'était une petite semence, on dit la plus petite des semences. Donc prenons moins. Mais ce que les autres plantes ne savaient pas, parce que toutes les semences n'ont pas la même destinée. Il y a des semences qui deviendront des fleurs, d'autres des simples plantes, d'autres de l'herbe, mais il y a des semences qui deviennent des arbres. Mais donc, comment l'arbre va sortir? Et tu dis que le grain de semence au départ, c'est la plus petite, mais à l'arrivée, il devient un arbre, un grand arbre. Intéresse Dieu. Dieu aime les petites choses. C'est là qu'il te glorifie. C'est là qu'il confond tout le monde. Un petit grain qui pouvait être moqué par les autres grains. Mais ce grain, je le dis, lui, il ne devait pas rester
sale. Non, lui, au moment où il était en train de grandir, les autres qui se moquaient de lui grandissaient, et lui aussi grandissait avec eux. À un moment donné, ils se sont arrêtés. Mais lui, il continue à grandir. Il continue à monter. Parce que sa destinée, c'était d'être un arbre. Quelle que soit la façon dont tu commences, c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu, les paroles qui sont fixées sur ta vie. Ce que Dieu a déclaré sur toi, c'est ça qui est le plus important. C'est pourquoi il dit que dans l'alliance, il y a des paroles, il y a des promesses. Il y a des paroles qui nous accompagnent. Et le grain de se lever, il y avait des destinées. Dieu avait déjà arrêté dans le ciel que ce grain de se lever deviendrait un arbre. Il était orphelin, exilé, politique. Il était envoyé au village. Il s'appelait Mephibosheth. Il y a eu l'espoir, c'est que papa est mort. On est pris aux affaires, on est exilé. Non seulement exilé, orphelin, il est au village, en même temps il est handicapé. Qu'est-ce qui pouvait sortir de bon dans la vie de cet homme? C'est sûr qu'il avait atteint un niveau où il s'est dit, il n'y a plus d'espoir, c'est fini, je vais mourir là, je vais rester au village. Mais ce que Mephibosheth ne savait pas, c'est qu'il y avait une alliance qui devait parler en sa faveur. Son père, Jonathan, avait une alliance avec ta vie. Et dans cette alliance, il y avait des paroles. C'est pourquoi j'insiste sur les paroles. Et Jonathan a dit à David, lorsque tu prendras le trône, souviens-toi de la famille de ma descendance. Voilà pourquoi ce jour-là, que David a pris le trône, il s'est souvenu de l'alliance. Il dit, est-ce qu'il reste encore quelqu'un dans la famille de Jonathan pour que je lui fasse du bien? L'alliance que Jonathan a parlé en faveur de sa descendance. Et Mephibosheth a vu sa condition changer à cause de l'alliance qui était sur sa vie. Tout ce qui est catonne, petit, moindre, desséché, c'est là que nous rejetons ensemble. Alors c'est bien quelquefois que tu vis des situations que les autres ne comprennent pas. Parce que Dieu, il les permet de se révéler. À travers le principe du rejeton, Dieu veut se révéler à travers le vie. Voilà pourquoi la Bible est là que Dieu prend les choses faibles du monde pour comprendre les forces. C'est pourquoi il dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est pas parce que tu as été à l'école de les diplômes que pour Dieu, il va te qualifier à cause de tes diplômes. La qualification de Dieu ne dépend pas de tes diplômes. La qualification de Dieu ne dépend pas de tes relations. Dieu, dans sa souveraineté, il choisit qui il veut. Même le plus insignifiant. Je dis que c'est lui. C'est lui. C'est pourquoi réjouis-toi de savoir que le Seigneur, ton Dieu, ne t'a pas oublié. Ephraïm était le plus petit. Mais en étant intégré dans le royaume de Dieu, il est rentré dans les principes de Dieu. Et dans les principes de Dieu, ce sont les plus petits qui sont grands. Il est rentré dans la distinction à cause de cette alliance. Le principe du rejetant. Dieu manifeste sa vie à travers des vies brisées. Dieu manifeste sa vie dans des conditions où il n'y a plus d'espoir. Il est comme ça, notre Dieu. Aimons ce Dieu-là comme ça. Il va prendre quelqu'un dans la boue, dans la poussière, mais il va le relever, le laver, le restaurer, le faire asseoir avec lui. Lui, il va chercher ses héros parmi les pourceaux, parmi les brumes. C'est là-bas qu'il va chercher ses héros.
il va pas faire son choix là où tout est beau. Non, il va se salir pour choisir ses héros. Donc, dis à ton voisin, tu es la bonne personne. C'est de toi que le Seigneur parle. C'est toi. C'est de toi. Il va les chercher loin. Hein? Mais pour les utiliser. Afin qu'à travers la vie de ces personnes, que ces personnes elles-mêmes sachent que ce qu'elles sont devenues, ce n'est pas leur statut social. Ce n'est pas leur diplôme, ce n'est pas leur bagage, mais c'est la grâce de Dieu. Parce que si Dieu devait tenir compte de nos diplômes, on va dire, mais Seigneur, c'est normal que je suis intelligent. C'est normal que tu me choisisses. C'est normal que je suis beau, je suis bête. C'est normal que tu dis non, je vais casser tout ça. Je vais faire quelque chose où tu ne pourras même pas t'appuyer sur quoi que ce soit. Mais tu reconnaîtras seulement que cela vient de Dieu. Afin que tu ne tombes pas dans l'orgueil. Parce que si Dieu devait nous choisir en fonction de nos mérites, je ne sais même pas si on va encore adorer le Seigneur. Celui qui adore Dieu, c'est celui qui a reconnu à Seigneur, toutes mes sources viennent de toi. Toutes mes sources viennent de toi. C'est pourquoi, pour ce soir, j'ai voulu partager le principe de rejeton, le principe de l'alliance, la bénédiction et maintenant la distinction. Mais la distinction de Dieu se fait selon ses principes, à lui, selon ses méthodes. Et le principe du rejeton nous amène dans le principe de Joseph qui consiste à retrancher pour ajouter. Dieu ne peut pas faire avancer quelqu'un sans qu'il commence par retrancher. Parce que Joseph veut dire, l'Éternel retranche d'abord et l'Éternel agit au bout. Donc, Dieu, pour ajouter dans la vie de Joseph, il a d'abord retranché Joseph. Voilà pourquoi quand vous faites la lecture de la vie de Joseph, vous voyez qu'il a vécu des retranchements, Dieu l'a privé. Mais Dieu l'a pas privé pour priver Joseph. Dieu l'a privé pour un temps, mais pour après lui donner plus par-dessus. Tu as privé Job, tu as réponché dans la vie de Job, mais après tu as ajouté. C'est ça le principe de Joseph. Tu entends sa mort, il te prive, il t'enseigne encore, il fortifie ta foi, tu grandis dans la confiance, et ensuite Dieu te